Radio Classique, les spécialistes.
Bonjour Stéphane Amar.
Bonjour.
Vous êtes psychologue dans un service de pneumologie dédié au Covid-19, responsable de l'unité de psychologie dans un hôpital, dans plusieurs hôpitaux de l'Essonne. Stéphane Amar, votre travail, c'est d'intervenir aujourd'hui auprès des patients, mais aussi des soignants?
Oui, tout à fait. Bon, c'est déjà une habitude, mais là, en l'occurrence, c'est plus que jamais nécessaire, oui.
Votre quotidien dans un hôpital ressemble à quoi en ce moment?
Alors, le quotidien, il est complètement bouleversé, pas seulement pour moi, mais bien sûr pour tout l'hôpital. Les services se préparent à la montée en puissance potentielle du nombre de malades. Ils s'adaptent, ils abandonnent leurs habitudes, leurs pratiques habituelles, et ils sont un peu sur le pied de guerre au sens pratiquement propre, on pourrait dire.
Les patients soignés pour un coronavirus arrivent seuls?
Oui, tout à fait. Alors,
les patients arrivent seuls, sans famille, et c'est un vrai problème, pour ces patients qui doivent être totalement désorientés.
C'est un problème pour ces patients qui sont isolés, mis à l'isolement, bien entendu, en plus des symptômes, puisqu'il faut rappeler quand même que ceux qui sont hospitalisés ont le plus de symptômes, plus ou moins graves, hein, d'ailleurs. Et puis aussi, c'est un problème pour les proches, bien entendu, puisqu'ils ont à supporter l'inquiétude et très peu de choses pour la calmer, on pourrait dire, en tout cas ne pas pouvoir être auprès d'eux.
Les premiers mots que vous dites, pardonnez-moi, la question peut vous paraître un peu stupide, mais qu'on peut dire à un patient qui arrive, qui doit être dans une espèce de détresse absolue?
Ah, alors les mots, vous savez, les psychologues, en l'occurrence, sont plutôt là pour écouter.
Oui.
Les mots, habituellement, sont portés par les médecins, par les infirmières, et malheureusement, il leur est aujourd'hui difficile de leur donner des mots qui soient de nature à les rassurer, puisqu'on est aujourd'hui tous plongés dans une terrible incertitude. Donc, c'est effectivement une situation assez inédite.
Vous parliez de situation inédite, c'est aussi une situation inédite aussi pour les soignants. Est-ce qu'il est bon que certains craquent, j'allais dire, de temps en temps, justement? Est-ce qu'il faut lâcher un peu les vannes de temps en temps du côté des soignants? Parce que ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils vont vivre pendant des semaines s'annonce extrêmement, extrêmement dur.
Bien entendu, c'est pour ça que partout en France, en tout cas, hein, probablement à l'étranger aussi, il y a beaucoup de mobilisation de la part des psychologues et des psychiatres pour constituer des lieux d'écoute, des temps d'écoute. Alors on le fait aussi de façon évidemment le plus possible informelle. La difficulté qui s'ajoute, c'est qu'effectivement les soignants sont enfermés dans les services de manière à ce que le virus ne se propage pas. Donc il y a en plus pour eux de la difficulté actuelle ce sentiment d'enfermement. Donc il faut aller les voir, il faut aller sur le terrain, nous-mêmes nous habiller pour leur prêter une oreille. Mais bien sûr que c'est extrêmement important, parce que là on s'apprête à partir sur une durée, là encore, indéterminée.
Stéphane Amar, le confinement va durer plus longtemps que prévu, il sera plus strict et il est indispensable. On sort un tout petit peu de l'hôpital. Pour les millions de Français qui sont confinés chez soi, est-ce que vous avez un conseil? Comment bien le vivre, entre guillemets?
Alors comment bien le vivre? C'est difficile parce que nous sommes tous tellement différents et notre rapport à la solitude, à l'enfermement est bien entendu différent. On a beaucoup entendu de choses sur les conditions et bien entendu que nous ne sommes pas tous au même diapason de ce point de vue-là. Donc les conseilleurs n'étant pas les payeurs, j'ai envie de dire, c'est un peu difficile. Maintenant, j'aurais juste envie de dire une chose, c'est que bien entendu cet état de tension, cet état de stress, tout le monde a du mal à le vivre parce qu'il est en général assez peu présent dans nos vies. D'habitude, nous sommes dans l'action, nous travaillons, etc. Aujourd'hui, nous sommes assignés à l'attente et il est tout à fait légitime de devoir se familiariser avec cet état de tension qui est une réaction. C'est là que je voudrais souligner quand même les choses, c'est que cette réaction-là, elle est tout à fait adaptée.
Oui.
Donc il faut pouvoir aussi supporter cet état-là, qui est une réaction tout à fait humaine, dans une situation de tension, de danger, d'inquiétude.
Mais un
alors
confinement,
après, il y a bien sûr des, oui. des choses que l'on peut mettre en place, des activités pour ponctuer le temps, parce que ce rapport au temps un peu particulier peut participer à générer de l'angoisse aussi.
Mais, et ça sera ma dernière question, ce confinement aussi nous permet de sauver des vies. C'est peut-être ça aussi qui peut nous faire tenir plus facilement.
Bien entendu, c'est d'ailleurs ce que l'on voit hein, à travers la mobilisation de beaucoup de gens sur les réseaux qui insistent, qui répètent ce discours, ce mot d'ordre, et d'une certaine manière, ça fait union hein, dans un moment d'isolement comme ça.
Merci beaucoup Stéphane Amar d'avoir répondu à mes questions ce matin, docteur en psychologie et qui est confronté.
Je tiens, si vous voulez, en tout cas à saluer encore une fois, on ne le fera jamais assez, tous les efforts de ces professionnels et rendre hommage aussi à tous ces malades et ces proches.
Merci beaucoup Stéphane Amar. On va d'ailleurs leur rendre hommage en musique puisque vous le savez peut-être, Anne-Sophie Mutter, la violoniste, met des petites vidéos en musique justement en hommage à ses soignants, l'Ave Maria. Avec Anne-Sophie Mutter. Anne-Sophie Mutter sur Radio Classique. Petit extrait que vous retrouverez sur le site justement de Radio Classique dans un instant. Les spécialistes, deuxième partie.
Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkéa, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkéa, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkéa, retrouvez chaque jour Fabrice Lundy dans Territoires d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique.
Renaud Blanc sur Radio Classique.
7h47 sur Radio Classique. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Renaud.
Une question ce matin, comment va l'Europe face à la pandémie? On parle de la cohésion, bien sûr, du vieux continent. On sait que les stratégies de lutte contre le coronavirus varient selon les pays. Mais y a-t-il un minimum de solidarité entre les Européens dans cette crise sans précédent?
Et la réponse, Renaud, est plutôt oui. L'Europe des égoïsmes s'efface au profit d'une Europe plus soudée qui doit affronter collectivement l'épreuve du Covid-19. Plusieurs signes concrets vont dans le sens que l'Europe contre le virus n'est plus seulement une promesse. D'abord, il y a la fermeture coordonnée des frontières extérieures de l'Union qui est aujourd'hui le foyer numéro 1 de l'épidémie dans le monde. Deuxième signe au plan économique, le plan de soutien de 750 milliards d'euros à la zone euro annoncé par la Banque Centrale Européenne et la mise entre parenthèses de l'orthodoxie budgétaire actée par la Commission de Bruxelles. Autre élément de rapprochement de fait entre les Européens, c'est l'alignement progressif des dispositifs nationaux avec des mesures de confinement total ou partiel qui touchent chaque jour de nouveaux pays. C'est désormais le cas en Italie, en Espagne, en France, mais aussi en Autriche, en Grèce, en Belgique, au Luxembourg et depuis hier soir au Royaume-Uni, même si comme Emmanuel Macron il y a 8 jours, Boris Johnson n'a pas voulu prononcer le mot confinement, lockdown en anglais. Et puis il y a ce geste de solidarité transfrontalière qui nous concerne directement, nous Français. 3 pays, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse, ont accepté de prendre en charge des patients en réanimation dans des régions de France voisines de leur territoire. Un geste qui indique que la logique du chacun pour soi n'est plus de mise et que la notion de continuité du territoire européen a bel et bien un sens.
Alors il y a tout de même eu ce week-end l'affaire de ces 110 000 masques chinois destinés à l'Italie et subtilisés lors de l'escale de Prague.
Alors écoutez, ce qui s'est passé précisément, c'est qu'un avion reliant Pékin à Milan s'est posé samedi à Prague et à la faveur des opérations de dédouanement, les 680 000 masques et les appareils respiratoires que transportait l'avion chinois ont curieusement pris le chemin d'un entrepôt privé où la police tchèque est ensuite intervenue pour récupérer le matériel. Du coup, ce que la presse italienne dénonçait comme un vol scandaleux et un détournement de masques immoral par la République tchèque a été été présenté par le gouvernement de Prague comme un coup de filet contre des trafiquants de masques. Nous n'avons certainement rien volé, se sont même indignées les autorités de Prague, qui, pour prouver leur bonne foi, ont annoncé hier l'envoi de 110 000 masques à Rome afin de remplacer le contingent détourné qui était destiné aux Italiens. On sait que le sujet des masques est particulièrement sensible en ce moment en Europe, qu'il a donné lieu à des tensions entre l'Allemagne et l'Italie, et par ce geste réparateur, eh bien, la République tchèque a tout simplement voulu clore l'incident.
Les spécialistes avec Emmanuel Faux. Merci Emmanuel. On reste en Europe avec vous, Dimitri. Quel sujet, question assez directe, hein, quel sujet de discussion au niveau de l'eurozone?
Ah ben oui, ça c'est le sujet aussi très important, le sujet à plusieurs centaines de milliards. Alors vous l'avez vu hier, il s'est passé quelque chose de très important. Les États membres, les 27 États membres de l'Union européenne ont suspendu, mis entre parenthèses, le fameux pacte de stabilité. C'est ce texte issu du traité de Maastricht qui impose des règles en matière de déficit public, notamment cette fameuse règle des 3%. Tout est suspendu pour le moment et là-dessus, eh bien, il y a eu unanimité des 27. C'est important de le signaler. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ça va se passer derrière. Parce que vous l'avez vu, il y a tous les États membres, pratiquement, ont au niveau national pris des décisions radicales pour soutenir leurs économies. En France, c'est ce prêt de 300 milliards d'euros de garantie pour l'État, cette enveloppe supplémentaire de 45 milliards. Tout ça va coûter extrêmement cher et il existe, justement, au niveau européen, au niveau de la zone euro maintenant, ce club de 19 États au sein des 27 qui ont tous la monnaie européenne, il y a une enveloppe, un fonds qui s'appelle le MES, le Mécanisme Européen de Stabilité. Rappelez-vous, Renaud, on en avait beaucoup parlé pendant la précédente crise 2012, la crise de la zone euro. C'est 400 milliards d'euros. Et là, toute la question est de savoir ce que l'on va faire de cet argent. Le débat actuel qui existe au niveau de la zone euro, il est le suivant. Est-ce que on débloque cette enveloppe de 400 milliards pour tout le monde, pour les 19, si vous voulez, ou bien est-ce qu'on la réserve à certains États membres, ceux qui sont le plus en difficulté? On pense évidemment à l'Italie, on pense aussi à l'Espagne, pourquoi pas aussi à la France. Et le débat est extrêmement vif entre les États membres de la zone euro. Pourquoi? Parce que si vous ciblez certains États, il y a quand même le risque de les désigner du doigt au marché, littéralement, avec derrière un risque d'attaque sur leurs emprunts, un risque d'écart de ce fameux spread, l'écart entre les États les plus vertueux, l'Allemagne et notamment l'Italie. Ce spread, il a commencé déjà à s'écarter significativement ces dernières semaines. C'est pour ça que la France, elle défend plutôt l'idée d'une enveloppe globale, si vous voulez, pour tout le monde, avec peut-être aussi des bouts d'enveloppe réservés à certains. Autre débat, est-ce qu'il faut mettre des conditions au déblocage de cette enveloppe, de ce mécanisme européen de stabilité, des conditions du style des réformes sur le plan des finances publiques, sur le plan aussi de la législation sociale, etc. La France, là aussi, dit c'est pas le moment, lorsqu'on compte ses morts, de compter ses milliards et donc de mettre des conditions. Troisième débat, et celui-là est très important aussi, est-ce que le mécanisme européen de stabilité, est-ce que 400 milliards, ce sera suffisant pour affronter la crise? Est-ce qu'il faut aller plus loin, ressusciter ce débat qu'on avait eu il y a quelques années de création de dettes mutualisées? Vous savez que les Allemands sont contre, puisqu'évidemment ça voudrait dire associer leur dette à celle de la Grèce ou bien à celle de l'Italie. Eh bien, peut-être que ces eurobonds qu'on n'a jamais pu créer à cause de ces divisions pourraient voir le jour sous la forme de Covid bonds, de Corona bonds. Là aussi, le débat est extrêmement vif entre les États dits vertueux, voire frugaux, et les autres dont fait partie la France, qui pour le moment pensent que ce serait une bonne idée, mais on n'en est pas encore là.
Merci beaucoup, Dimitri. L'économie, l'international, avec Emmanuel, avec Dimitri. Et puis, un peu de légèreté ce matin tout de même, également dans les spécialistes, avec vous, Élodie. Bonjour.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Toujours en direct de votre salle de bain pour ne pas réveiller les enfants. Alors ce matin, Élodie, vous nous parlez de Jean-Jacques Goldman.
Oui, il reste année après année la personnalité préférée des Français, peut-être pour sa discrétion, peut-être pour son empathie, peut-être pour son engagement des années auprès des Restos du Cœur. Jean-Jacques Goldman, qui depuis plusieurs années ne fait presque plus d'apparition publique, Jean-Jacques Goldman vient de publier une vidéo où il reprend seul face à la caméra de l'endroit où il est confiné sa chanson « Il changeait la vie ». Alors il en a changé les paroles pour qu'elles deviennent « Il sauve des vies ». Et il chante, il a presque les larmes aux yeux, Goldman. Il chante pour les soignants, pour les éboueurs, les boulangers, les caissières, les caissiers dans les stations-service, les urgentistes, qui sont tous en guerre contre le coronavirus, qui sont des pères et des mères comme nous, qui auraient toutes les raisons du monde de rester chez eux, mais qui se mobilisent pour nous face à l'épidémie. J'avais envie ce matin de vous faire écouter un petit extrait de cette chanson.